France Inter.
France Inter. Le 18-20. Amélie Perrier.
Enfin, les vacances pour la zone B dès ce soir. Pour les autres, encore un peu de patience. On y est presque. Et l'idée, cette fois, c'est d'aller se mettre au vert, de combattre l'hiver, la grippe, la grisaille, l'actualité maussade, en se prenant un grand bol de nature. À la campagne, à la montagne, plus forcément pour faire du ski, juste pour profiter du paysage somptueux, du calme, du bon air. Depuis quelques années, ce tourisme rural, près de la nature, connaît un vrai boom. Vous n'en pouvez plus de la ville, vous avez besoin d'aller respirer ailleurs, pas forcément loin, régulièrement, appelez-nous, le standard vous attend.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et la première à nous appeler, c'est Anna. Bonsoir Anna.
Bonsoir.
Alors vous êtes dans les Cévennes, c'est ça?
Exactement, oui, dans le sud des Cévennes.
Racontez-nous.
Écoutez, je gère un petit camping qu'on a monté il y a 10 ans avec mon conjoint, qui s'appelle Bivouac Nature. On est donc dans le sud des Cévennes. Et on a créé en fait un espace avec 24 tentes lodges en pleine nature sur un site piéton où on propose des activités nature.
Et qui sont les gens qui viennent vous voir ?
Alors on va avoir des personnes qui ne sont pas forcément très loin, de Montpellier, des fois d'Alès, et puis après de beaucoup plus loin, Paris, de la Belgique même. Voilà.
Et vous dites que ça fait 10 ans que vous avez ouvert, c'est ça, ce petit camping?
Exactement, oui. On a créé ça il y a 10 ans.
Et ça a bien marché tout de suite ou ça marche depuis quelques années mieux?
Non, on a toujours eu notre public. Tout de suite, on l'a trouvé. Après, il a évolué avec le temps. Avec le Covid aussi, il y a eu un gros boom justement de ce besoin de nature et de se retrouver vraiment en pleine nature.
Vous, vous l'avez senti, l'avant et l'après-Covid?
Oui, oui. Franchement, beaucoup, oui. On a eu la sortie du Covid, on a été plein tout de suite.
Ah oui.
Mais on a toujours eu du public depuis 10 ans, ouais, qui nous suit des fois aussi. On a des familles qui reviennent régulièrement. Voilà.
Et vos clients, ils vous disent quoi? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous?
Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ce côté justement situé en pleine nature où on chemine vraiment sur du sentier, on laisse les voitures à l'entrée. Où les gens, les familles se rencontrent, finalement, nous, on a l'impression que le fait de laisser la voiture à l'entrée et de que tout le monde soit piéton, les rencontres se font plus faciles. Et puis, comme on n'a qu'une trentaine de familles en tout sur le site, tout le monde se connaît. Enfin, nous, c'est vraiment, on connaît tous ceux qui sont sur le site.
Ça donne très envie, votre camping dans les Cévennes. On va en parler avec nos invités qui sont avec nous ce soir. Je les salue. Bonsoir Jean Viard.
Bonsoir.
Sociologue, directeur de recherche associé au CVPOF, CNRS. Vous signez notamment l'ouvrage L'an zéro du tourisme, penser l'avenir après la grande pandémie. Linda Lenné, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en studio avec nous, rédactrice en chef du magazine L'Écho Touristique. Vous aussi, vous avez écrit un livre, ça s'appelle Voyage au pays du surtourisme aux éditions de l'Aube. Et Solange Escure, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice générale des Gîtes de France qui fête ses 70 ans, c'est ça cette année? Bon anniversaire.
C'est ça. Merci.
Et vous êtes pionnier du tourisme rural. Jean Viard, je peux vous faire réagir à ce que vient de nous dire Anna et notamment cet avant et après Covid?
Oui, c'est pas surprenant.
Ouais.
Alors d'abord, évidemment, elle s'est installée en Cévennes, qui correspond culturellement, protestantisme, tout ça. Il y a un amour de la nature, puis elle est puissante, la nature en Cévennes. Donc ça a toujours joué. Mais après, je pense que, après, vous savez, la grande pandémie, on a eu peur, et en même temps, l'art de vivre a un peu gagné sur l'art de produire. On s'est rendu compte qu'au fond, rester chez soi, c'était pas si grave. 63% des Français ont un jardin, donc si vous voulez, la majorité des gens ont profité de leur jardin. Il y a des malheureux qui n'en ont pas eu, mais enfin quand même. Et donc, on a senti partout ce désir de nature. Vous savez, moi je dirais une chose simple. Avant, on disait toujours, la ville rend libre depuis 2 siècles.
Oui.
Aujourd'hui, c'est la nature qui rend libre. Et c'est ça qui a profondément changé. D'ailleurs, on en met devant les écoles à Paris, tout ça, la nature, c'est aussi la nature en ville. Mais fondamentalement, je pense que quand on a besoin de s'aérer, de changer de monde, de se déconnecter des réseaux, tout ça, de se mettre au soleil, même si c'est pas toujours bon pour la peau, je pense que la nature a pris un pont. Et regardez les vacances, les ponts du printemps, c'est une folie, quoi. Le 1er mai, 8 mai, quand on sait qu'il va y avoir des fleurs, tout ça. Donc je crois qu'on est une société qui a réaimé la nature. Et je dirais une dernière chose, vous savez, je pense que cette nature charnelle, qui est celle que vous jardinez, qui est celle que vous êtes dans un camping, au fond, c'est la nature vécue de la grande guerre climatique où on est entré. D'un côté, il y a l'écologie, tout ça, les grandes théories qu'on a un peu du mal à saisir comment il faut faire. Et de l'autre côté, on s'accroche à son arbre.
Oui, ça parle, ça. Ce sont des éco-anxieux qui ont besoin d'aller se réfugier dans la nature, Jean Viard.
Je dirais pas des éco-anxieux, c'est des gens qui ont un art de vivre, qui ont... Vous savez, la nature, c'est lent. Un arbre, ça pousse pas vite, les fleurs non plus. Il n'y a pas la même vitesse, il n'y a pas le même son. Vous savez, une des grandes choses que les gens quittent en ville, c'est le bruit.
Et oui, c'est ce que dit Anna, on laisse la voiture, là, du coup, on n'a plus les klaxons.
On n'a pas les klaxons, on entend les oiseaux, regardez l'importance des oiseaux. Et donc, je pense qu'on a redécouvert ces choses-là, et que c'est d'ailleurs une des raisons que les gens disent la première critique sur la ville, c'est le bruit. Hein. Parce qu'à un moment, on se rend compte que c'est un bruit assourdissant, sans compter qu'on a la télé, la radio, le téléphone, tout ça. Donc non, ce n'est pas des anti-anxieux, je pense que c'est des gens qui ont un certain art de vivre.
Linda Lainé, qu'est-ce que vous entendez de ce que nous raconte Anna? L'avant, après Covid aussi, ça, c'est vraiment une réalité? C'est passé quelque chose avec ce confinement?
Alors déjà, comme vous le disiez au tout début, c'est vrai que les Français, ils ont besoin de s'oxygéner. Ils ont besoin d'un grand bol d'air frais ou d'air chaud, mais en tout cas, ils ont besoin de nature pour justement s'extraire de la ville. Je parle sous le contrôle de Jean Viard, mais je crois qu'aujourd'hui, 80% des Français vivent en ville. Donc, quand ils ont du temps libre, ils ont envie d'avoir du calme, de la nature, d'être éloigné du bruit, de la pollution, de voir gambader leurs enfants dans un jardin ou dans un parc. Donc ça, c'est une première chose. Après, s'agissant du Covid, c'est vrai qu'au sortir de la pandémie, vous vous souvenez, on avait des masques, on avait également une distance sociale à respecter, il y avait des jauges, et donc en général, les Français ont fui la ville, ont fui les espaces fermés comme les musées et les monuments, et ils ont décidé d'aller justement là où ils pouvaient librement se déplacer, notamment en pleine campagne ou en bord de mer, là où justement on pouvait se déplacer sans craindre d'attraper ce fichu microbe. Et puis le témoignage était intéressant parce qu'il y avait beaucoup de choses dans ce que disait cette gestionnaire. C'est un petit camping, donc on retrouve la convivialité. C'est une des premières qualités des campings. Et puis également, on est en pleine nature dans cette fabuleuse région des Cévennes. Il y a une étude l'année dernière qui disait que 75% des Français estiment que les campings permettent justement de se rapprocher de la nature, d'être en symbiose avec les éléments pour voir pousser les fleurs, pour voir des animaux gambader et pour se retrouver aussi avec les siens et puis pour parfois créer des moments de convivialité avec les autres personnes du camping.
Solange Escure, quelles sont les destinations qu'on n'attend pas et qui sont très prisées pour les gîtes de France?
Alors depuis,
on a parlé des Cévennes là, mais il y en a d'autres, j'imagine.
Tout à fait. Depuis la période post-Covid, on remarque en effet qu'il y a des séjours de plus en plus à la campagne, et les Français viennent chercher tout ce qui vient d'être dit précédemment, c'est-à-dire cette nature, ce besoin de s'oxygéner, de se retrouver en milieu rural. Mais chez nous, Gîtes de France, il y a quelque chose en plus. Il y a cette nature avec nos hébergements qui sont en milieu rural, mais il y a aussi cet accueil qui est fait par le propriétaire et qui donne du sens aux vacances. En fait, nous produisons des hébergements et nous sommes des producteurs locaux et c'est du consommer local de venir chez Gîtes de France.
Et les destinations, vous nous dites, les départements?
Alors, en fait, tous les départements, puisque nous sommes présents dans 92 départements, mais depuis le Covid, en fait, les destinations campagne attirent de plus en plus.
Jean Viard, il y a un mouvement historique là-dedans que j'aimerais que vous nous expliquiez, que vous nous racontiez. C'est parti de l'exode rural. À un moment, on s'est dit, ouais, non, la campagne, ça suffit, on n'en veut plus, on veut la ville. Vous le disiez, c'était la libération, la ville. On est en train de revenir en arrière.
Ben, c'est-à-dire, d'abord, l'exode rural en France a été très tardif. Hein. Faut toujours se rappeler que les Anglais, c'était au 19e siècle, hein, le cottage, tout ça. Nous, l'exode rural, c'est après les années 50. Hein. Donc, c'est vraiment un phénomène très tardif. Et donc, ça veut dire que une partie d'entre nous sont les enfants de l'exode rural qui sont partis vers la ville. Et vous savez, les mamans poussaient leurs filles vers la ville, vers le propre. Rappelez-vous tous les livres qu'il y a là-dessus, quoi. C'était l'idée que la campagne, c'était toujours boueux, etc. Et qu'au fond, la ville, c'était la propreté, donc la liberté de la femme aussi. Ça jouait énormément dans ces mouvements. Et puis, effectivement, ensuite, il y a les années 70-80, tourisme de masse, automobile, on a tous une voiture, pas tous, mais enfin l'essentiel d'entre nous. Et donc, on devient mobile dans l'espace. Bon. Et puis, depuis quelques années, qu'est-ce qui se passe? Il se passe d'abord que les villes sont pleines, donc on construit autour des villes. On étale, regardez le mouvement des gilets jaunes, regardez tout ça, c'est du périurbain. Et actuellement, vous avez autant de gens qui ont une maison individuelle que de gens qui ont un appartement. Sauf que dans les appartements, on est souvent tout seul, les étudiants, les vieilles personnes, ou deux, alors que dans les maisons individuelles, c'est des familles. Ce qui fait qu'en gros, vous avez à peu près 60% des gens qui, en fait, habitent dans une maison avec jardin, qui ont aussi redécouvert la nature. Il y en a 24% qui ont un potager, il y en a 80% qui ont un animal. Vous voyez, il y a tout un mouvement, là, qui est aussi peut-être une façon de faire vacances chez soi, puisqu'on essaie d'avoir un point d'eau, d'avoir un barbecue, d'avoir du vin rosé, j'allais dire, c'est un peu un petit club mec. Vous voyez, il y a tout ça qui fonctionne. Et après, je pense que la grande guerre climatique nous incite sécurise sur l'avenir de la planète en termes charnels, et qu'en même temps on s'y raccroche aussi en termes charnels dans son jardin, dans son voilà, et parce qu'un jardin il faut le faire pousser, etc. Et je pense qu'il y a tout ça qui joue. Et si vous voulez, et moi je trouve ça extrêmement positif, il faut dire aussi une chose, c'est qu'il y a moins de monde dans les campagnes historiques, puisqu'il reste 450 000 fermes en France, et il y en avait 2,5 millions à la Libération. Donc, si vous voulez, il y a effectivement qu'il y a de la place, on peut trouver de la solitude, etc. Et puis il y a toute une population, et là, la dame des gîtes ruraux de France a tout à fait raison de le dire, il y a plein de gens qui ont fait métier de faire du lien. Que ce soit des petits restos, des petites auberges, etc. Et donc, vous avez un énorme accueil. Prenez l'Aubrac. L'Aubrac, il n'y a pas de chômage, parce qu'il y a d'un côté de magnifiques vaches, et de l'autre côté, des lodges. Et ça fait un équilibre économique. Donc, si vous voulez, il y a ça aussi, toutes ces populations qui se sont développées dans ce type d'accueil. Et ça compte énormément, parce que l'accueil, évidemment, c'est essentiel.
Linda Lenné, je vous voyais réagir à ce que disait Jean Viard.
Oui, tout à fait, par rapport à notre rapport à la ville que pour beaucoup d'entre nous, nous vivons au quotidien, et qui fait qu'on reconsidère un peu les autres espaces différemment. Il y avait une étude l'année dernière publiée par le ministère du Tourisme, en charge du tourisme, qui disait que parmi les principales motivations des Français quand ils partent en vacances ou en week-end, il y a d'abord l'envie de se reposer, de se ressourcer, à 54%. Après, il y a l'envie de prendre son temps, donc par rapport effectivement au monde du travail, bien sûr, où on court toujours après un rendez-vous.
Changer de rythme, ouais, c'est ça.
Changer de rythme, ex aequo avec découvrir des paysages, ainsi que l'environnement. Donc là,
c'est une motivation importante.
C'est une motivation importante, donc finalement en deuxième ex aequo avec prendre son temps. En troisième, il y a sortir de son quotidien, donc autrement dit sortir de la ville. Et puis en quatrième, être au calme. Donc là, on retrouve la nature. Donc dans toutes ces motivations, il y a effectivement cet élément fondamental qui est la nature.
Alors justement, on retourne au standard. Bonsoir Jean-Baptiste.
Oui.
Oui, allez-y, je vous en prie, on vous écoute.
Oui, ici Jean-Baptiste, je vous appelle du Morvan où je viens d'arriver, où je me ressource toutes les 4 à 6 semaines.
En vacances alors? Vous n'y vivez pas à l'année?
Je suis retraité, retraité, alors
chanceux que vous
c'est
êtes.
C'est des vacances perpétuelles, mais j'ai besoin de cet accueil avec cet accueil de la nature, le bruit des petits oiseaux, d'aller me promener avec mes petits enfants, on va au ruisseau d'à côté, on n'a pas la piscine, mais tout est agréable et tout se croque avec un grand plaisir.
Vous vivez en ville, c'est bien ça, mais vous avez besoin de ces pauses régulières, c'est ça.
Je vis en ville dans un endroit qui est absolument merveilleux parce que je suis en bord de Loire et je n'ai pas de vis-à-vis, je vois la Loire à mes pieds. J'ai déjà beaucoup de chance.
Mais
cette alternance ville-nature permet de trouver une paix, une sérénité qui est très très agréable.
Linda Lenné, il y a ce besoin aussi, pas forcément de partir longtemps, de partir 6 semaines, mais de partir fréquemment, régulièrement, pour s'aérer régulièrement. On l'entend ça.
Exactement. Alors pour ceux qui ont la chance de partir, c'est une réalité. Il faut le rappeler, 60% seulement des Français partent en vacances. Et pour les 40% qui ne peuvent pas partir en vacances, pour la moitié d'entre eux, c'est pour des raisons financières. Mais en tout cas, pour ceux qui peuvent partir. Il y a effectivement cette envie de partir plusieurs fois dans l'année. On est finalement des touristes ou des visiteurs protéiformes avec des envies différentes en fonction de l'année, en fonction de la saison, en fonction de nos humeurs et puis en fonction aussi du groupe avec lequel on part. Est-ce que c'est seul, en famille, pour le travail, etc. Et dans ce que disait Jean-Baptiste, il y avait effectivement cette envie de se retrouver en famille et
oui, de profiter de ses petits-enfants aussi à la campagne.
Voilà, en toute simplicité. Et pour revenir sur votre point, l'ancienne ministre en charge du tourisme, Olivia Grégoire, le disait assez souvent, on part plus souvent et moins longtemps. Voilà.
France Inter, le téléphone sonne.
Et l'on accueille Yvain. Bonsoir Yvain.
Bonsoir.
Je vous écoute, allez-y.
Alors moi, je viens de Bourgogne et je voulais donner mon avis parce que je trouve que c'est vrai que les vacances c'est très ressourçant et important pour beaucoup de gens. La plupart des gens que je connais, ils partent en vacances, y compris moi. Mais souvent, on part toujours aux mêmes endroits, à la mer et à la montagne. Et on ne s'intéresse pas aux endroits qu'on traverse en voyageant.
Sur le trajet, oui.
Ouais.
Alors qu'il y a des très beaux paysages aussi sur la route, voilà. C'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Et vous arrêtez parfois dans ces départements que vous traversez, dans ces villages que vous traversez ?
Ah non, je m'inclus totalement dans la norme des gens que je critique, j'ai envie de dire. Mais
comment vous choisissez votre destination, vous, alors, quand vous partez en vacances ?
Alors, mais moi, c'est pas moi qui choisis, j'ai que 16 ans.
Bah, vous pouvez donner votre avis, peut-être, à vos parents, non ?
Oui, bah... En général, on part dans des lieux auxquels on est habitué.
Ouais.
En Bretagne, au printemps, et puis en hiver à la montagne, au ski. Puis voilà, c'est déjà bien.
Solange, ouais. Oui, allez-y, Yvain. Ouais, ouais.
Du coup, j'ai envie de dire cette polarisation des lieux de vacances visités, bah, ça entraîne forcément des impacts sur les endroits où tout le monde va et aussi sur les endroits où personne ne va, j'ai envie de dire.
Oui, le surtourisme dans certains endroits et dans d'autres, peu de monde. Mais selon Gescure des Gîtes de France, vous avez des gîtes partout en France ?
Tout à fait. Nous avons 55 000 hébergements qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Donc chacun va pouvoir trouver les vacances qui lui correspondent, que ce soit un gîte, c'est-à-dire une maison, que ce soit un séjour en chambre d'hôte, que ce soit un séjour en camping. Donc il y en a pour toutes les envies et surtout tous les budgets.
On va retourner au standard avec Mathieu. Bonsoir Mathieu, vous êtes à Rennes, vous, c'est ça ?
Oui, bonsoir, à côté de Rennes, oui.
Et vous avez une question à nous poser, au téléphone sonne.
Oui, voilà, moi, le thème de l'émission me fait un peu rire, doucement rire, les vacances
pourquoi,
à la campagne.
Bah,
parce que pourquoi les gens, s'ils sont tellement attirés par la nature, la campagne, ils ne vivent pas en campagne, ils ne travaillent pas en campagne.
Voilà, on va poser la question.
Il peut être agriculteur, bûcheron, jardinier, maçon, animateur nature, il y a plein de métiers qui existent. Alors voilà, pourquoi est-ce que la campagne, c'est un parc d'attractions ou est-ce que c'est un lieu de vie ?
C'est une excellente question. On va poser la question à Jean Viard. Ce besoin de vert, de vacances à la campagne, mais que de vacances ? On n'y vivrait pas, mais on adore y aller en vacances. Comment vous l'interprétez, ça ?
Oui, c'est vrai aussi pour le bord de mer, encore que c'est moins en moins vrai. Il y a de plus de gens qui habitent au bord de mer. Non, mais c'est vrai, on est une civilisation urbaine. Mais regardez même les chiffres qu'on a dit depuis le début. On dit que 80% des Français habitent en ville. Moi, je dis 63% des gens ont un jardin. Pourquoi ? Parce que la ville, c'est grand. L'Île-de-France, c'est une ville. Mais en fait, il y a plein de maisons avec jardins. Mmh. J'ai été élu à Marseille, j'avais 128 000 maisons qui avaient des jardins. Je le sais, je m'occupais des poubelles. Donc, si vous voulez, c'est pour dire que les choses sont extrêmement imbriquées et qu'effectivement, aller vers la ville, c'était la liberté, c'est des études, c'est le travail aussi pour beaucoup de gens, hein, je veux dire. Et ça dépend des milieux, mais enfin, c'était quand même ça. Donc je crois que si vous voulez, la campagne, c'est pas un grand parc d'attractions parce que la population de la campagne augmente plus vite que la population de la ville depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire que le nombre de gens qui s'installent à la campagne, alors dans certains types de campagnes, regardez le mouvement des Gilets jaunes, c'était du grand périurbain. Regardez les gens qui ont quitté la ville pendant le Covid, ils allaient dans des grandes régions touristiques. Donc je crois qu'il faut faire très attention. Vous savez, je veux dire une chose. le premier déplacement des Français, c'est une transhumance. C'est-à-dire que vous allez de chez vous à un endroit où vous avez l'habitude, vous êtes peut-être allé petit, vous êtes peut-être né là, vous avez peut-être une résidence secondaire. Il y a 4 millions de familles qui ont une résidence secondaire. Donc il y a d'abord cette grande transhumance répétitive où le plaisir, c'est d'être reconnu. Quand vous arrivez au bar, « Ah, Paul, tu es revenu ?» Je veux dire, c'est du lien, ça. Donc, si vous voulez, c'est ça, c'est le cœur. Après, il y a le voyage. Vous allez découvrir une région que vous ne connaissez pas. Et puis, il y a des déplacements fonctionnels. Vous allez voir un musée, voir une exposition, aller voir le Bleuet à Bannon, la grande librairie de la montagne. Bon. Mais si vous voulez, sur le fond, je crois que la répétition, c'est pour ça que j'appelle ça une transhumance, ça crée du lien non seulement avec les lieux, mais aussi avec la mémoire. Vous savez, les vacances, c'est vivre quelque chose, mais c'est l'anticiper. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Ah ben si on allait à la campagne, qu'est-ce qu'ils ont pensé les enfants? Et puis après, c'est le raconter.
Mais j'en viens, est-ce que la campagne, c'est pas un fantasme, en fait, qu'on a envie de s'offrir pour les vacances, mais qu'on voudrait pas avoir tous les jours, en fait?
Oui, mais les gens n'ont pas forcément envie d'y habiter, mais je vous dis quand même, il y en a de plus en plus qui habitent. Et après, on va être précis. En France, il y a 25% de retraités. Il y a 25% de gens qui font du télétravail. Ce qui se passe depuis le Covid, c'est que les gens du télétravail, quand ils ont une résidence secondaire, ça fait quand même 4 millions de familles, ils vont de plus en plus souvent le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ils rentrent le lundi soir. Donc on voit très bien qu'en fait, on est en train d'une société bi-résidentielle où il y a de plus en plus de gens dans les milieux, et c'est plutôt chez les cadres, il faut bien le dire, qui en fait vivent moitié en campagne, moitié à ville, et ils y prendront leur retraite. Parce que cette transhumance d'été, c'est aussi la transhumance de retraite qui fait que beaucoup de Lillois vont aller prendre leur retraite en Occitanie, etc. Vous voyez, il faut penser la vie comme une grande mobilité. 50% des gens ne vivent pas dans leur département de naissance. Et 10% des gens seulement mourront dans leur commune de naissance. En fait, on a une société extrêmement mobile, suivant les âges. Vous allez vers la ville pour faire vos études. En général, vous vous mettez en couple plutôt dans la grande ville. Vous allez avoir un enfant vers 31-32 ans. Et puis, si vous en voulez un deuxième ou autre, là, vous allez partir pour avoir une maison avec un jardin. Vous voyez, c'est rattrain. Et puis, vous allez vous séparer vers 40-45 ans. Vous revenez en ville pour refaire couple, et puis etc. Et quand vous prenez votre retraite, vous allez aller là où vous avez été le plus heureux en vacances. Et où vous avez les meilleurs souvenirs. Souvent, c'est familial, mais pas toujours. Vous voyez, il faut voir ces sociétés de trajet. Ne pas considérer que nous sommes des sédentaires fixés, nous sommes des mobiles qui nous déplaçons, notamment à Paris, où la grande majorité des gens ne sont pas nés. Vous voyez, il faut voir. Moi, je crois que les vacances, ça s'inclut dans ce processus.
Linda Lenné du magazine L'Écotouristique, qu'est-ce que vous pensez de ce parc d'attractions, la campagne Nouveau Parc d'Attractions?
Alors, en tout
cas, c'est un peu cruel ou pas?
En tout cas, ça a le mérite d'être un peu poil à gratter. Ouais. En fait, je pense qu'il faut remettre le débat dans son contexte. Bien sûr, il y a un boom, en tout cas une traction des vacances et des loisirs au vert. C'est indéniable, notamment depuis le Covid, même si depuis, beaucoup de Français ont renoué avec les visites urbaines, culturelles, ils retournent au musée, ils retournent également dans les monuments. La preuve, c'est que le Louvre est victime de son succès et a accueilli 9 millions de visiteurs l'an dernier, donc c'en est bien la démonstration. Et si on regarde à une échelle plus globale, c'est vraiment le littoral, enfin le balnéaire, qui domine les aspirations des Français. Ouais. Lorsqu'ils partent en vacances en week-end, pendant la période estivale, on va dire de juin à septembre, eh bien, ils privilégie avant tout le littoral, donc à 42%. Donc ça, c'est vraiment en tête. Ensuite, via la campagne, à 19%. C'est beaucoup, mais c'est quand même seulement 19%. Et ensuite, la montagne. Donc si on cumule campagne et montagne, on arrive à 29%, ce qui fait que le littoral, le balnéaire, est toujours en premier. Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue. Après, on a beaucoup parlé de la demande, des aspirations des Français, de leur état d'esprit. Il faut aussi avoir conscience du fait que l'offre s'est beaucoup structurée à différents niveaux. Tout d'abord, on a bien sûr les acteurs historiques, les campings, les Gîtes de France, depuis plus récemment, on a également des offres qu'on retrouve sur Airbnb. Et puis, il y a également tout un tas de nouvelles offres périurbaines. Donc, pour finalement séduire des personnes qui vivent en ville et leur offrir, en tout cas leur proposer des escapades, le temps d'un week-end ou pour 4 ou 5 nuits. Alors, il y a par exemple les campings Utopia, qui vraiment répondent à cette demande, qui sont plutôt des campings haut
de
gamme.
C'est quoi les campings Utopia? Est-ce que c'est ce qu'on appelle le glamping, le glamour camping?
Alors oui, ça s'en rapproche. En fait, ce sont des campings assez haut de gamme qui proposent des hébergements dans des tentes très confortables et qui sont quand même plutôt pour des clientèles CSP+, avec éventuellement une piscine naturelle.
Qui cherchent une expérience nature, en fait.
Qui cherchent une expérience nature à proximité de leur domicile, donc pour un week-end, par exemple.
Mais avec du confort, parce que c'est ça aussi, la campagne n'est pas toujours confortable, en
avec
fait.
Avec du confort. Il y a, en fait, parmi les offres périurbaines qui se développent, les center parks aussi,
ouais. Hein,
qui, eux, offrent un type d'environnement beaucoup plus grand, avec de grands espaces forestiers, des animaux qu'on peut côtoyer, des expériences qu'on peut pratiquer avec des enfants. Les parcs zoologiques, eux aussi, ont développé des hébergements insolites. Et dans le même esprit, vous savez, il y a toute une vague de cabanes, de tiny house qui se développent et que l'on
tiny
voit
house,
maintenant...
Tiny house, c'est les maisons minuscules, en fait.
Ce sont des maisons minuscules, exactement, qui ont plus ou moins de confort. Hein. Certaines, ouais. En fait, sont minimalistes. Hein. Vous allez retrouver juste une chambre pour deux personnes et puis peut-être les toilettes.
Et posées au milieu de la prairie. Ou à côté d'un champ.
Voilà, exactement. Ça peut être soit dans le jardin d'un château, soit éventuellement dans le champ d'un agriculteur. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'il y a une start-up française, elle s'appelle Parcel, et justement, elle jette des ponts entre les agriculteurs.
Ah bah, et vous me faites une transition parfaite pour accueillir Marie. Bonjour Marie.
Oui, bonjour.
Vous vouliez parler justement d'un réseau que vous aimez beaucoup.
Oui, qui s'appelle Accueil Paysan et qu'on pratique en famille depuis une quinzaine d'années. Et du coup, la particularité, comme son nom l'indique, donc Accueil Paysan, c'est des paysans qui accueillent sur leur ferme. Donc il y a des campings paysans. Enfin, nous, c'est surtout ça qu'on a pratiqué, mais il y a aussi des gîtes paysans, etc.
C'est-à-dire, vous arrivez chez le paysan avec votre tente et vous plantez la tente dans le champ, c'est ça?
Oui, voilà. Alors, c'est pas que un champ, c'est vraiment des structures qui sont labellisés, où il y a tout ce qu'il faut en termes de normes d'accueil, au niveau des sanitaires, de tout ce qu'on attend d'un camping, mais avec nous, ce qu'on aime, c'est le côté simplicité et temps passé par les personnes autour de l'accueil pour parler de leur métier, faire découvrir le territoire, et voilà, et tout ce qu'on peut trouver aussi dans un camping d'interaction avec des autres campeurs, qui viennent aussi chercher quelque chose, un petit truc en plus de particulier dans ce réseau.
Vous êtes urbaine? Vous habitez en ville?
Nous, on habite à la campagne.
Voilà. Vous habitez à la campagne et vous aimez, en vacances, aller aussi à la campagne chez des paysans, c'est ça?
Oui, et puis en plus, en famille, c'est vrai que c'est quand même plus pratique d'aller en campagne qu'en ville. En termes de budget aussi, c'est un accueil qui est accessible. Voilà. Et puis, il y a toujours une richesse de rencontres très forte pour les enfants et pour nous aussi.
Ouais. Ah bah justement, Solange Escure, le budget et l'accueil chez l'habitant, c'est tout à fait l'ADN des Gîtes de France, c'est ça?
Tout à fait. L'accueil chez l'habitant, ça fait partie des valeurs à l'origine de notre marque. Donc à la fois un budget qui va correspondre à ce que chacun peut dépenser pour ses vacances, avec une classification des hébergements. Mais ce qui fait notre spécificité, c'est cet accueil personnalisé par le propriétaire qui va faire découvrir sa région à ses hôtes, qui va vraiment être l'ambassadeur de sa région, ouais. Et donner du sens aux vacances.
Solange Escure, justement sur les catégories, je crois que vous avez 5 épis, c'est ça? Ça va de 1 épi à 5 épis. Aujourd'hui, il y en a pour tous les budgets, parce que moi j'ai connu les Gîtes de France il y a plusieurs décennies où c'était pas cher, quoi. On pouvait aller à la campagne et c'était pas des gros budgets, ça coûtait pas trop cher. Aujourd'hui, il y a aussi des chalets vraiment assez luxueux et il y a des CSP+, maintenant, qui partent avec les Gîtes de France. Vous avez élargi votre clientèle.
Exactement. Depuis l'origine, en fait, où on était sur un tourisme plutôt social, pour permettre à des citadins de partir à vacances, on est passé à des hébergements de grande qualité, quel que soit le classement, d'ailleurs. Et sur les hébergements plus haut de gamme, on touche effectivement les CSP+.
On va rejoindre Claudine à Beaufort. Bonsoir Claudine.
Bonsoir.
Allez-y,
bonsoir.
Je vous en prie.
Alors, moi je suis une maman de 3 enfants et avec mon mari, nous voyageons en vélo.
D'accord.
Depuis 12 ans.
Avec les trois enfants dans une carriole.
Avec les trois enfants. Alors au début, oui, la plus petite était en carriole et puis petit à petit en trelgator. Donc la barre
en
de remorquage.
Ah oui, d'accord, ok.
Oui, c'est une barre de remorquage. Et puis, bon, maintenant, ils sont très grands. Hein, la plus grande a 20 ans. Et nous voyageons toujours tous les cinq. Et malgré le fait que nous habitions en campagne, nous voyageons quand même en France, en vélo. Et on prend le temps.
Vous allez où ? Racontez-nous les derniers voyages.
Alors,
c'était où ?
Alors bon, le dernier voyage, c'était pas en France, c'était aux Pays-Bas. Mais en France, nous avons fait la Bretagne à vélo, le Lot, les Voies du Doubs, la Vendée, la Bretagne.
Et qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ? C'est le rythme ? C'est d'être au grand air ?
Oui, le rythme et le fait de partir seulement avec les sacoches.
D'accord, donc avec très très peu de choses.
On a nos sacoches, nos tentes, de quoi préparer à manger. Et puis voilà, on part, on essaye d'avoir un petit itinéraire. Mais on se laisse aussi porter par les conseils des personnes que nous rencontrons. Puisqu'on essaye de dormir chez l'habitant.
D'accord. Et vélo électrique ou pas ?
Ah non !
Ah oui, vous êtes des puristes, ok. Non, parce que j'allais poser la question, justement.
On fait la Haute-Loire en vélo, et là, les enfants nous ont un petit peu détestés.
Je les comprends un petit peu. J'allais poser la question, justement, à Linda, l'aînée, parce que le vélo électrique, ça a changé aussi les vacances. Ça fait partie des nouvelles activités qu'on propose à la campagne. Parce que qu'est-ce qu'on y fait à la campagne ? Voilà, il faut trouver de nouvelles activités. Le vélo électrique a changé beaucoup les pratiques.
Bien sûr, tout à fait. Je vais juste revenir avant de vous répondre au témoignage de Claudine, parce que en fait, il vient en complémentarité avec celui, je crois, d'Yvan, qui disait malheureusement, en fait, le voyage commence quand on arrive à destination.
Oui.
Eh bien,
on
justement,
pas,
là, pour Claudine, c'est le contraire.
Ouais, ouais.
En fait, le moyen
c'est
de transport,
le voyage qui est...
le voyage fait partie du moyen de transport et réciproquement.
Ouais.
Donc, on voit qu'effectivement, c'est un temps lent, c'est un temps où on profite dès qu'on embarque sur son vélo.
Ouais.
Donc ça, c'est intéressant. S'agissant de la pratique du vélo, c'est vrai que depuis quelques années, elle s'est démocratisé d'abord parce que le vélo électrique est arrivé et donc ça permet d'ouvrir la pratique à beaucoup plus de personnes, les enfants en bas âge, les personnes plus âgées et donc ça permet de faire des vacances en tribu beaucoup plus faciles que par le passé. On ne redoute pas la petite côte on ne redoute pas non plus la fatigue des enfants.
D'autre part, Claudine, c'est de l'itinérance, mais le vélo aussi, ça a développé par exemple les vacances à la montagne. L'été, on peut faire du VTT électrique.
Exactement, tout à fait. Effectivement, à la montagne, justement, le vélo s'est bien développé grâce au vélo électrique. Et parallèlement, alors ce n'est pas le cas de Claudine, mais il y a aussi des sociétés, notamment des agences de voyage spécialistes, qui accompagnent les personnes qui choisissent le vélo et leur facilitent le travail. Par exemple, ces agences vont proposer des itinéraires un petit peu clés en main, vont également réserver les hébergements et puis s'occuper du portage d'étapes en étapes. Donc là, ce sont les spécialistes finalement de l'aventure douce qui ont développé une offre partout en France comme en Europe. Mais pour les personnes très, très férues comme Claudine, il n'y a pas besoin, elle s'occupe de tout seule.
Apparemment, oui. J'envie à ce que j'entends aussi dans le message de Claudine, là, c'est le rythme en fait. On a besoin de ralentir, j'ai l'impression. On vit à 100 à l'heure aujourd'hui, au quotidien. Et là, pendant les vacances, on va aller lentement, quoi. On va aller à 15-20 km/h.
Oui, mais c'est vrai, mais au fond, c'est le problème des vacances. On dit toujours les vacances, c'est quand tu sais plus le jour que t'es, quoi. C'est simplement que t'es là, tu sais plus si t'es lundi ou mardi. Bon. Et je crois que c'est ça, c'est le fait de se débrancher complètement. Alors, c'est plus compliqué avec le numérique, hein, parce qu'avant le numérique, on se débranchait vraiment. Maintenant, des gens qui n'amènent pas leur portable et qui ne le laissent pas allumer dans la poche, il n'y en a quand même pas beaucoup. Donc, le lien a beaucoup changé. Mais après, bien sûr, mais moi, je voudrais dire une chose. Ce qui est fascinant aussi dans les vacances, c'est qu'il y a plein de choses complètement différentes. Il peut y en avoir qui se déplacent en vélo en famille. Il peut y en avoir qu'une résidence secondaire. Il y en a qui vont aller toujours dans le même camping. Donc, ils vont changer chaque année. Et mine de rien, la France est un terrain de découverte tellement extraordinaire que vous pouvez avoir de multitudes d'opportunités. Et je trouve que c'est important d'insister là-dessus parce qu'on dirait toujours que le tourisme, c'est une énorme foule qui se déverse comme ça sur les campagnes où il n'y a rien à faire parce que vu de la ville... Moi, j'ai toujours vécu à la campagne. Donc, quand on me dit qu'il n'y a rien à faire à la campagne, ça m'amuse. Parce que moi, j'ai l'impression souvent que c'est en ville qu'il n'y a rien à faire. Mais donc, si vous voulez, chez l'autre, on n'a pas les codes. Il faut faire très attention à ça. Non, mais voilà, je crois que cette diversité, elle est... Et heureusement, ça a augmenté. C'est vrai que le vélo électrique, ça augmente. Le vélo, les nouvelles appétences, enfin, très écologiques des gens. Ils ont envie de, effectivement, de se déplacer sans polluer, etc. Donc, ça modifie aussi les pratiques. Regardez, en France, ils prennent beaucoup moins l'avion, beaucoup plus le train. L'avion reste pour l'étranger dominant. Donc, vous voyez, il y a aussi toutes ces nouvelles valeurs. Et c'est un grand moment d'expérimentation de nouvelles valeurs. Et puis, il faut dire une chose, les vacances, c'est le grand moment de la famille.
Oui.
Et souvent, de 2-3 familles, vous savez, on ne part pas forcément en micro-famille. Ça peut être un cousin, deux familles, mais c'est des tribus. 2-3 familles, c'est, au fond, c'est une tribu, les vacances. Et souvent, c'est des amis de vacances avec qui vous voyez très peu le reste de l'année. C'est un groupe à part. Vous avez été à l'école ensemble, les enfants ont le même âge. Ouais. Bon, c'est vrai. Donc ça aussi, ça joue, ça crée un deuxième lien d'amitié à côté du lien, j'allais dire, de la vie quotidienne et du travail.
Et dans la tribu, parfois, il y a des animaux aussi. Bonsoir, Anne.
Bonsoir.
Vous êtes à Nantes.
Oui, je suis à Nantes et moi j'interviens justement. En fait, mon choix de vacances est fait en fonction de l'accueil de mon chien, parce que j'ai remarqué que à la campagne, c'était beaucoup plus simple d'accueillir un animal de compagnie.
Vous trouvez plus facilement des hébergements à la campagne pour accueillir votre chien.
Oui, tout à fait. Alors qu'à la mer, on va pouvoir trouver éventuellement un camping qui va l'accueillir. Mais par contre, aller sur la plage avec mon chien, bah, ça va être interdit en moyenne de juin à peu près à septembre. Donc du coup, bah, on n'y va plus. Donc on préfère aller à la campagne, au moins bah, tout le monde est libre. Et puis bah, on a notre chien. Sinon, bah, c'est triste sans lui aussi.
Ouais. Solange Escure des Gîtes de France, l'accueil des animaux, j'imagine ça fait partie aussi des possibilités dans les gîtes ruraux.
Bien sûr, oui, oui. Nos propriétaires proposent l'accueil d'animaux. Donc, nous avons une grande partie de nos hébergements qui accueillent un ou plusieurs animaux.
Lina Lenné, on part plus souvent et moins longtemps ?
Alors, oui, c'est en tout cas ce que dit le ministère, mais ça dépend beaucoup des personnes, en fait.
Ouais.
Hein. Ça dépend beaucoup des personnes, c'est bon aussi du budget.
Et la question économique, on n'en a pas encore beaucoup parlé.
Il faut savoir ce qu'on entend par partir.
Ouais.
Parce que dans les chiffres qu'on a avancés depuis le début, il y a également les hébergements non marchands.
Quand
le gouvernement dit 74% des Français
partent en vacances
ou en week-end, ça inclut également les week-ends dans la famille, chez ses parents, chez une tante. Donc effectivement, le budget, c'est quand même très important. Et certains choisissent de finalement partir dans la famille ou chez des amis pour les retrouver, parce qu'ils veulent justement se ressourcer en tribu. Mais c'est aussi parfois parce qu'il y a des contraintes budgétaires qui sont fortes. Donc le départ n'est pas le même en fonction des personnes. Heureusement, en France, nous avons une grande diversité d'hébergements. Et il y en a finalement pour tous les budgets, que ce soit en camping, en logis de France, dans les hôtels, ou dans les campings par exemple, c'est assez méconnu, mais 50% de l'offre d'hébergement correspond à des terrains nus, à des emplacements nus, où on vient poser sa toile de tente, on vient poser sa caravane ou son camping-car. Donc là, ce sont des offres typiquement qui sont très simples pour ceux qui veulent justement une solution d'hébergement simple, authentique, et en même temps, c'est pas cher du tout.
Merci beaucoup, merci Linda Lenné, rédactrice en chef du magazine L'Écotouristique. Vous avez aussi écrit le livre Voyage au pays du surtourisme aux éditions de l'Aube. Je vous remercie également Jean Viard du CVPOF, CNRS. Je vous rappelle également votre ouvrage L'An Zéro du tourisme, penser l'avenir avant, après la grande pandémie aux éditions de l'Aube. Et merci à vous Solange Escure, vous êtes la directrice générale des Gîtes de France. Je remercie également nos standardistes. Juste après 20h, ce sera votre heure philo. Bonsoir Patricia Martin.
Bonsoir ma chère Amélie.
Alors ce soir au programme,
C'est un sujet qui va bien avec celui que vous venez de traiter,
ouais.
C'est la lenteur.
Ah,
en vacances, on prend son temps. On va parler de ça avec le philosophe Mathias Leboeuf et l'historien Laurent Vidal.